RCF. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le magazine de l'économie. Comme vous le savez, l'économie française, nous dit-on, ne se porte pas très bien. Les objectifs de croissance sont plutôt réservés, même si le gouvernement français espérait une légère reprise. La récession de l'économie française semble plutôt la réalité. Les chiffres du chômage devraient s'inverser, devant les dires du président François Hollande, mais beaucoup d'observateurs affirment que la destruction des emplois en France va continuer. Alors, faisons le point. Quels sont les grands maux de l'économie française? De quoi souffre donc notre pays? Chômage chronique, hyperfiscalité, hypocroissance, troubles de la compétitivité. Pour nous aider à poser les bons diagnostics et à envisager peut-être des remèdes efficaces, avec nous Nicolas Bouzou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste. Cécile Philippe, bonjour.
Bonjour.
Directrice de l'Institut économique Molinari, Jean-Marie Monnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie au Centre d'économie de la Sorbonne. Et Bertrand Maccabeo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la revue Dirigeants chrétiens, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
L'actualité de l'économie.
Alors pour commencer, recueillons votre regard, vos commentaires sur l'actualité économique. Cécile Philippe, avant de le faire, dites-nous ce qu'est l'Institut économique Molinari.
Eh bien, l'Institut économique Molinari, c'est un think tank, un institut de recherche, tout simplement, dans la terminologie française. C'est-à-dire qu'on fait de l'analyse des politiques publiques. Donc, on peut s'intéresser à des sujets très, très larges, de la fiscalité à la dette, en passant par l'environnement, pour après passer à l'économie souterraine. Enfin, tous les sujets sur lesquels on peut porter un regard économique.
Alors, comment observez-vous les politiques publiques économiques de notre pays sous la houlette du président François Hollande et de Pierre Moscovici?
Ah, j'allais être beaucoup plus large que juste sous Hollande et le gouvernement actuel. Grosso modo, je trouve qu'en France, ça fait 10 ans, on célèbre cette année les 10 ans de l'Institut Molinari, et je trouve qu'on manque de liberté et de responsabilité dans notre système globalement, et que ce soit pour le gouvernement actuel comme pour le précédent, on a toujours une tendance à alourdir en permanence la fiscalité, la réglementation, et elle devient de plus en plus, détaillée, un peu, le terme m'échappe, mais véritablement trop importante.
Alors je vais vous demander de commenter, et on fera le même exercice pour les uns et pour les autres, les premiers propos qui vous semblent à retenir à votre oreille. Nicolas Bouzou, comment est-ce que vous réagissez à ce que vous venez d'entendre?
La question de la réglementation, par exemple, me paraît très, très intéressante. Moi, je vais commencer par mettre les pieds dans le plat, parce que c'est ça qui est amusant, et c'est pour ça que vous nous invitez. Finalement, l'économie française aujourd'hui et son contexte mondial ressemble beaucoup à ce qu'était l'économie française à la fin de l'Ancien Régime. C'est-à-dire que vous êtes dans une période de croissance économique mondiale tirée par l'innovation. Aujourd'hui, la croissance mondiale va bien. On a énormément d'innovation. On est au début d'un cycle d'innovation qui est l'équivalent de la Renaissance, si vous voulez. Donc, il faut avoir cette idée.
Lorsqu'on regarde le monde,
bien évidemment. Et vous avez une économie qui est bridée par de multiples facteurs. Et c'est cette frustration, si vous voulez, qui risque d'être très problématique, parce que l'économie française, on le dit, alors c'est un côté un peu bien pensant, mais c'est vrai. Il y a des atouts. Il y a un tissu d'entreprise qui est très important. Il y a une administration qui fonctionne plutôt bien, qui est efficace.
Bon.
Donc, on a un niveau de formation qui reste correct, même s'il ne progresse pas autant qu'il devrait, mais il y a véritablement des atouts, si vous voulez. Mais évidemment, ça ne se matérialise pas dans les chiffres, puisque vous l'avez dit en introduction, on est en récession, ça fait quasiment un an que l'activité économique n'a pas progressé, on a un nombre de chômeurs qui augmente, et d'ailleurs, le nombre de chômeurs augmente pourquoi? Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous, par contre. Pas parce qu'on détruit des emplois. L'économie française détruit très peu d'emplois. On est une des économies qui détruit le moins d'emplois dans le monde.
C'est
ce qu'on vous dit des bêtises, mais vous voyez, je suis suffisamment
puissant
pour les corriger.
Pour qu'on comprenne bien.
Donc on détruit très peu d'emplois. Les licenciements économiques aujourd'hui, plus bas historique. Le problème de l'économie française, c'est qu'elle ne crée pas d'emplois. Ce qui est très différent. On détruit à peu près 10 000 emplois par jour. On en crée 9 000.
C'est on pourrait en détruire 20 000, c'est mais si on en crée 25 000, le taux de chômage diminue.
Nicolas décrit le processus de destruction créatrice. Voilà, exactement. Et qu'en fait, juste un des vrais problèmes de la France, et Alain Duhamel, déjà en 1993, dans son livre Les peurs françaises, parlait du mal français, à savoir le chômage en France. C'est notamment parce qu'on a bloqué complètement le processus de destruction d'emplois qui donne lui-même lieu à la création d'emplois pour s'adapter aux besoins des consommateurs et à l'innovation dont parlait Nicolas.
Bertrand Macabéo.
Alors je ne peux que souscrire à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant et j'ajouterai simplement, il y a trop d'États. C'est simple, il y a trop d'États. Alors on parle tout le temps de réformer l'État, aujourd'hui, hier, avant-hier, mais l'État n'est pas réformé. Quand on voit, par exemple, la Cour des comptes, qui a encore la semaine dernière confirmé que l'éducation et les 40 000 emplois supplémentaires de l'éducation, c'était pas ça le sujet. Hein. Mais on ajoute des briques aux briques aux briques, donc on crée des murs, et les murs, ça isole les uns des autres. Trop d'États. Une législation qui est beaucoup trop lourde. Quand on compare le code du travail français au code du travail suédois, c'est plus de 1000 pages en France contre 50 pages en Suède. Comment voulez-vous que les chefs d'entreprise s'y retrouvent? On a à peu près 3 millions d'entreprises en France, dont 200 000 de plus de 10 salariés. Ça veut dire que la majorité des patrons français sont des patrons de TPE. Ils se perdent dans ce dédale de législation. Je ne parle
donc
que
le choc administratif, ça vous convient?
Ah oui, mais il faut un vrai choc. Mais
vous
depuis
y croyez?
Le temps, c'est une question de volonté.
Ouais,
tous les Français sont d'accord pour dire qu'il faut le faire. Simplement, il faut que qu'ils le disent.
Et selon vous, ça va être fait? Jean-Marie
Monnier. Non, j'ai pas dit que ça va être fait. J'espère que François Hollande va se décider à le faire.
Mais je reviendrai sur la trajectoire, le cap, le pilote dans l'avion, François Hollande et Pierre Moscovici, pour que nous ayons vos réactions.
D'accord.
Mais Jean-Marie Monnier, vous, votre premier propos lorsque vous observez l'actualité de l'économie française.
Si vous me permettez de réagir à ce qui a été dit,
allez-y.
Je vais faire de la provocation, mais on est là pour animer le débat. Donc, moi, ça fait grosso modo 15 ans que j'écris que nous sommes dans une crise de ressources de l'État. C'est-à-dire que nous avons, à partir des années 90, une politique qui se met en place, qui est une politique de substitution de l'impôt par la dette. C'est-à-dire qu'on s'est mis à financer les dépenses publiques par de la dette à la place de l'impôt. De manière cumulative, si vous voulez, on a accumulé comme cela des stocks de dettes de façon assez impressionnante en remplacement d'un impôt qui aurait dû être payé tout à fait normalement comme cela se fait ailleurs et comme cela se fait en d'autres temps. Moi, je me rappelle, j'ai écrit ça en 2000, que la quantité d'emprunt à la place de l'impôt devenait assez grave. En 2005, avec mon collègue Bruno Tinel, on a dit qu'on risquait d'ici peu d'avoir un cycle récessif provoqué par ce type de stratégie. Et aujourd'hui qu'on y est, et cela depuis 2008, grosso modo, on se dit, bah oui, on est dans une crise de ressources, mais on sait plus comment en sortir, puisque effectivement, le stock de dette est devenu tellement important que, pour en sortir, on a adopté des politiques de tax cut, et puis aussi des politiques de coupe dans les dépenses qui nous enferment dans ce déficit récessif.
Dans les dépenses, pas beaucoup.
On a coupé, si vous voulez bien, je vous ai pas interrompu, donc on parvarde, etc. Mais bon, effectivement, tout le monde raconte ça, c'est-à-dire tout le monde dit l'État est trop gros, machin, gna, venez dans mon amphi, je vous assure que vous verrez que l'État est pas si gros que ça, et que mes étudiants, qui sont au nombre de 600, alors qu'on divise en deux, 300 dans un amphi,
au
centre Tolbiac, je vous invite à venir voir si l'État est aussi gros que ça. Et malheureusement, il se trouve que Didier Migaud n'a jamais enseigné. Donc pardonnez-moi, je fais
des autres. Mais c'est bien, c'est bien. Vous posez des questions, vous nous aidez à avancer.
Je pense qu'effectivement, on est dans ce type de crise et que aujourd'hui, il est extrêmement compliqué d'en sortir. Et ma réaction à la situation actuelle, c'est d'abord de dire la tâche du gouvernement est extrêmement compliquée, parce que justement, justement, on a une crise qui est devenue multiforme.
Oui, mais ce que vous dites,
vous avez raison
sur le fait que l'endettement.
De repartir avec cette question de base, plus ou moins d'État. Je crois que c'était un débat enterré, mais allons-y.
Mais non, je pense qu'en France, c'est pas enterré. Et au contraire, justement, tout le débat sur l'austérité, c'est ce débat-là. C'est de dire.
Plus ou moins de
regard. Et c'est quoi l'austérité? Puisque aujourd'hui, contrairement à ce que je crois que vous avez essayé de dire, c'est qu'aujourd'hui, l'austérité ne s'est pas traduite par une baisse des dépenses publiques au niveau de la zone euro et particulièrement pas en France où au contraire on a vu le poids fiscal augmenter de 12,9%. Voilà. Donc je sais pas raison, c'est que la dette a augmenté, mais le poids fiscal aussi.
Une illusion statistique qui est provoquée par le fait que vous parlez d'un taux qui est constitué effectivement d'un numérateur et d'un dénominateur, et quand le dénominateur diminue, effectivement le taux globalement il augmente.
Allez-y,
donnez votre point de vue.
Alors justement, je vais pas donner mon point de vue qui est de peu d'intérêt, mais peut-être quelques chiffres pour qu'on s'appuie sur des bases qui soient un peu rigoureuses. En réalité, quand on parle de dépenses de l'État, ça veut rien dire. Ah oui. On parle de trois choses, en réalité. On parle des collectivités locales, de l'État central, et c'est à ça que vous faites allusion, c'est-à-dire finalement les dépenses des ministères, leur déclinaison, la justice, globale. L'éducation nationale, etc. Et les dépenses de sécurité sociale, c'est-à-dire pour l'essentiel retraite, santé, et tout ce qui est lié à l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Bon, quand vous regardez l'évolution de ces dépenses de l'État, vous avez raison, elles sont stables. C'est maîtrisé. On peut toujours se dire qu'elles pourraient être plus faibles, mais ces dernières années, elles n'ont pas beaucoup progressé.
Mais elles représentent trois quarts de la dette.
Les dépenses des collectivités locales, alors c'est
rien à voir.
On est dans
rien
un pays jacobin, etc. Alors les collectivités locales, évidemment, on n'arrête pas de dire c'est pas bien, elles recrutent trop. Bon, en réalité, ça représente 20% des dépenses. C'est pas énorme. Leur endettement est très faible. En plus,
bon, c'est pas là le problème.
Donc, le sujet, c'est les dépenses de sécurité sociale. Ça, c'est la moitié de la dépense publique. Et la vérité, c'est que c'est ça qu'on n'arrive pas à financer, et c'est ça qui progresse. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à contrôler. Pourquoi on n'arrive pas à le contrôler? Pour deux raisons. Première raison, parce qu'on a une population qui vieillit. Alors ça, c'est le cas de tous les pays du monde, hein, quasiment tous les pays du monde, y compris les pays émergents. Et évidemment, bah, au bout d'un moment, les gens ont envie de partir en retraite, ce qu'on peut comprendre. Et donc tout ça, voilà. En plus, quand on vieillit, malheureusement, on a des dépenses de santé qui augmentent. Donc voilà. Donc la véritable question, c'est comment on régule ça. Alors ça, c'est évidemment extrêmement, extrêmement complexe. Mais par contre, on ne peut pas dire, parce que là, c'est factuellement faux, et qu'on peut avoir des débats, mais pas sur les faits, si vous voulez. Il ne faut pas dire que tout ça a diminué.
Non.
C'est faux. Dépenses de l'État stables, collectivités locales en hausse justifiée et sécurité sociale en forte hausse.
Voilà.
Alors Bertrand Macabeo et puis Cécile Philippe, puis on y reviendra.
À cela, je voudrais ajouter, à mon sens, l'Europe est en panne. L'Europe est en panne, c'est-à-dire que on n'a pas suffisamment progressé dans ce qu'on pourrait appeler une fédéralisation de l'Europe. Je veux dire par là, aujourd'hui, chacun des pays européens a son armée. Si on avait une armée commune, est-ce qu'on ne ferait pas des gains substantiels au niveau des armées européennes? Parce que je pense qu'il n'y a pas de gros risques pour que les pays européens soient en guerre l'un contre l'autre. Ce que quand on dit que on le constate et ça personne ne peut le nier.
J'ai pas de faire
les recettes
à l'Allemagne.
Non, mais les recettes et les dépenses, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit pourquoi ne pas créer.
Les pays européens ne peuvent pas avoir de conflit entre eux. C'est pas pour cette raison qu'on a une défense.
Non, ce que je dis simplement, c'est que si on avait une armée commune, on aurait une armée plus forte vis-à-vis des autres pays et certainement des réductions d'échelle.
Là, vous cherchez des économies, c'est
mais
ça.
Oui, mais si vous voulez, quand on a un déficit, quand on a un déficit, il faut trouver. Je suis chef d'entreprise, je sais ce que c'est qu'une entreprise.
C'est pas la même chose. L'État n'est pas une entreprise et
non.
L'ensemble
Laissez
de la nation
terminer,
n'est pas une entreprise.
Laissez-moi terminer. Il y a des recettes et des dépenses. Hein? Eh bien, quand les recettes ne sont pas là, il faut adapter ses dépenses. Voilà. Et c'est ce qui n'est pas fait depuis des mois et des années.
Cécile,
j'ajouterais que
Philippe, vous êtes un peu échappé tout à l'heure. Le pilote dans l'avion, François Hollande et Pierre Moscovici aux manettes, là.
Manque de visibilité.
C'est pas bien, la visibilité
c'est,
est insuffisante.
Insuffisante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a je dirais que le principal problème actuel, c'est l'incertitude.
Incertitude
tout le monde est dans
à la globalisation, aux échanges mondiaux, etc.
Non,
ou alors
l'incertitude due à la politique. Regardez, mais prenez l'exemple de la taxe à 75%.
Alors,
et de
certains
tous
disent
les
c'est anecdotique.
C'est anecdotique, mais c'est tellement représentatif d'aller-retour, d'incapacité à avoir, à trouver la bonne solution, s'il y en a une d'ailleurs.
Vous êtes en train de dire que ce gouvernement part de l'incertitude générée génère en fait un manque de confiance et que ça trouble le jeu de l'économie.
Exactement, parce que en fait, quand vous êtes entrepreneur, puisque j'en ai un à ma gauche, et finalement moi j'en suis une aussi avec mon institut, c'est que vous êtes, et voilà, on l'est tous finalement, et vous avez besoin de calculer économiquement ce qu'un projet va vous coûter.
Donc
aujourd'hui,
vous ne savez pas
à quelle sauce vous allez être mangé.
Nicolas Bouzou, le cap économique de François Hollande et de Pierre Moscovici, je vous rappelle qu'en gros, c'est de dire la courbe du chômage va être inversée. C'est ce que nous dit
elle sera forcément inversée un jour.
Nous dit le président de la République, oui, mais il le dit là dans les mois qui viennent, oui, et ils disent la croissance va revenir.
Non, mais moi je les défends, Hollande et le Premier ministre et Moscovici, parce que en réalité, le gouvernement il répond à une demande sociale. Et la grande difficulté, le grand paradoxe de notre temps, si vous voulez, c'est que le monde est en train d'entrer dans une nouvelle économie. Je vous l'ai dit, on est tiré par une économie de l'innovation. C'est la question des nanotechnologies, c'est la question de la génétique, de la biologie moléculaire, bref, de tout un tas de choses qui semblent très barbares à nos amis auditeurs, mais néanmoins c'est le monde dans lequel il faut entrer parce que la croissance, elle est là. Et le problème, c'est que le gouvernement le sait bien. Enfin, tous les gens qui regardent sérieusement la question savent bien que les gisements de croissance sont là. Mais le problème, c'est que ça n'est pas aujourd'hui, si vous voulez, la demande profonde de l'opinion publique. Donc aujourd'hui, l'opinion publique, elle demande de la protection. L'opinion publique, elle demande qu'on sauve ArcelorMittal, Petroplus et PSA. Et donc, on affecte des ressources à sauver.
Vous y croyez au nouveau plan social de PSA?
Non, mais il y aura encore sans doute des plans sociaux. Mais PSA est une très belle entreprise et je veux pas.
C'est très
difficile. Oui, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que ça suffira? J'en sais rien. Mais surtout, la question, elle est pas là. Je vais vous prendre. Tiens, vous m'avez pas posé la question, mais je vais vous parler de Montebourg. Quand on a nommé un ministère du redressement productif. Quand on a mis en place, un ministère du redressement productif. Tout le monde a rigolé. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Attendez, mais il devrait être numéro 2 du gouvernement, le redressement productif. Ça devrait être l'enjeu numéro 1 de la nation. Sauf que, en réalité, il affecte son énergie, son temps, ses ressources à essayer d'aller sauver des usines qui, de toute façon, il faut dire la vérité, à moyen terme, sont condamnées. Donc, l'enjeu, il est pas là. L'enjeu, quand on perd 100 emplois, l'enjeu, c'est pas d'en recréer 100, c'est d'en recréer 10 fois 10. C'est de mettre en place un environnement qui va permettre aux entreprises
Exactement.
De créer des emplois.
Il y a un manque de visibilité.
Bertrand Macaléo.
Il y a un manque de visibilité très clair dans l'action du gouvernement. Il y a un manque d'explication. Et je pense que le peuple français a besoin de comprendre quelle est la stratégie du chef et d'explication. Et il y a un manque de cohésion. Vous évoquiez le ministre du redressement productif. Je pense qu'il y a eu quand même des errements dans la communication au moment de la prise de connaissance du dossier Peugeot en disant que ça ne pouvait pas se faire. Et puis finalement, ça se fait en faisant des promesses pour Florange, etc. Je pense que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est effectivement dire la stratégie et quels sont les moyens qu'on met en place et ne pas souffler le froid et le chaud comme c'est fait trop souvent actuellement.
Ouais, mais si je me permets d'ajouter quelque chose, j'ai envie de rebondir sur ce que disait, sur ce que vous disiez tous les deux, c'est-à-dire que effectivement il y a une demande sociale et tant qu'il n'y aura pas un relatif consensus sur l'importance probablement de réformer l'État, de sans doute baisser les dépenses publiques, eh bien on n'arrivera pas à justement donner cette vision et qui est absolument essentielle à toute réforme de l'État. Et je pense immédiatement au cas du Canada qui a réussi à se réformer dans les années 90 et où tous ceux qui témoignent de la fameuse réforme disent on avait réussi à inverser la mentalité, c'est-à-dire qu'il s'agissait plus de savoir où on coupait mais de savoir ce qu'on préservait, il s'agissait d'un projet de société et aujourd'hui c'est vrai qu'on n'y est pas.
Le magazine de l'économie, grand format.
Alors, le magazine de l'économie cette semaine, quel grand mot de l'économie française pouvons-nous mieux comprendre? J'avais choisi des termes un peu médicaux, hein, ça veut dire chômage chronique, hyperfiscalité, hypocroissance, bref. C'était un peu pour s'amuser, parce que les sujets sont lourds. Alors, Jean-Marie Monnier, parlons dette en 30 questions à la Document française, et on sent bien que ce sujet, évidemment, vous est cher. Alors, parlons-en de ces dettes. Qu'est-ce que vous avez voulu redire dans cet ouvrage?
D'abord, répondre à des interrogations qui sont celles du public. C'est-à-dire, de manière simple, compréhensible, répondre à un ensemble de questions, pas par des slogans, comme on peut en entendre, il faut réduire l'État, il faut couper dans ci, il faut faire cela, voilà. Ça, c'est des slogans, si vous voulez. Il ne s'agit pas de répondre de cette façon-là, il s'agit de chercher et d'essayer de rendre explicites et compréhensibles des choses que l'on peut trouver, alors, mais qui sont un petit peu compliquées.
La dette en France aujourd'hui, comment vous l'évaluez quantitativement, la dette de la France, quantitativement? Allez-y, donnez le chiffre et puis on va voir si tout le monde est d'accord.
On sait très bien que la dette en France, elle représente aujourd'hui la dette, selon Maastricht, on est actuellement à 96% du PIB. Hein. Grosso modo, je pense qu'il n'y a pas de désaccord là-dessus. On doit être d'accord.
Donc tout le monde est d'accord.
Là où il y aura des accords, c'est lorsqu'on nous sort, ça représente 25 à 30 000 euros par habitant, ce qui est une ânerie, si vous voulez. Puisqu'en général, on compte
j'allais vous demander de commenter.
Des dettes brutes et puis on oublie de dire qu'il y a des droits qui y sont associés, puis on oublie.
Et par rapport aux 3% du PIB, plus ou moins.
On ne tenait compte que d'un côté du bilan et pas de l'autre. Enfin, bref, ça, c'est le genre de choses, effectivement, qui posent problème.
L'assouplissement de l'Europe. Qui va permettre.
Alors,
un
le problème, c'est
de ces 3% qu'on ne tiendrait pas.
L'un des problèmes, je pense que l'un des problèmes, c'est effectivement l'évolution de l'Europe, et cela depuis un certain nombre d'années, vers une régulation que moi j'appelle libérale autoritaire. C'est-à-dire, on pense que il faut donner des signaux et des sanctions si les signaux sont pas respectés, et on oublie tout simplement que la construction européenne, elle repose d'abord sur la solidarité. C'est-à-dire qu'on fonctionne sans solidarité. Voyez-vous, on met en place une monnaie et on oublie qu'il faut une solidarité budgétaire et fiscale. Et on dit, voilà, si vous dépassez tels indicateurs, là, vous allez en prendre plein la figure, ce qui s'est passé, puisqu'on a amené la Grèce à des situations absolument épouvantables. On ne peut pas
donc
se
vous
féliciter
vous rendez
de ce qui
les
s'est
institutions
passé.
Européennes non, quasi responsables de la situation grecque.
Vous m'interrogez sur l'Europe, je vous réponds mon appréciation de l'Europe.
Du lien entre l'Europe économique et la Grèce.
Si je puis dire, les mots de la France ne sont pas à imputer à l'Europe, ou uniquement à l'Europe, etc. Je vous ai dit tout à l'heure que, pour ce qui me concerne, je pense depuis longtemps que la politique économique qui a été menée depuis presque 25 ans, qui a consisté en grande partie à substituer de l'emprunt à l'impôt, a été une erreur profonde. Et que c'est l'une des raisons à la base de la situation actuelle.
Alors le traitement pour Jean-Marie Monnier, c'est s'attaquer à la dette. On fera le tour de chacune.
Non, c'est pas le seul. Il faut changer la structure des prélèvements obligatoires, faire une vraie réforme fiscale, parce qu'il a été fait. Et vous avez raison, la taxe à 75%, c'est une ânerie monumentale. Enfin,
chacun commente cette question de la dette. Nicolas Bouzou, sur cette question de la dette, comment vous en parlez-vous?
Déjà, moi, j'en parle pas beaucoup parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui avant tout, c'est la question de la croissance. C'est-à-dire que sur la dette, bon,
c'est pas votre angle d'attaque.
Non, mais c'est important. Je veux pas minimiser la question de la dette, mais c'est extrêmement difficile de réduire la dette en se disant on va réduire les déficits publics sans croissance. Et d'ailleurs, on voit bien que le gouvernement n'y est pas arrivé. Alors le gouvernement a fait le pire qui soit. Alors vous voyez, je l'ai défendu tout à l'heure, mais alors le gouvernement a fait la pire chose qui soit. Il est tombé dans un piège de débutant. Je comprends même pas comment il a fait. Il a pensé qu'en augmentant très fortement les impôts, ça n'aurait pas d'impact sur l'activité économique. Et donc, finalement,
vous ça aurait juste d'accord, là.
Il a pensé.
Ça, c'est ça, l'austérité en France et en Europe. C'est l'augmentation des prélèvements.
Il a pensé que ça aurait un coût politique. Ça, il savait bien que ça aurait un coût politique, mais il n'avait pas vu que ça avait un coût économique. Pourquoi? J'en sais rien.
Mais on nous a dit que c'est augmenter les impôts sur les revenus élevés, les dirigeants.
Là aussi, moi, je vais vous dire un truc désagréable. Oui, mais dans ce cas-là.
Je sais pas, c'est ce que se demandent nos auditeurs,
hein. Eh ben, je vais être désagréable avec certains de vos auditeurs. Ceux qui croient aux bêtises sont aussi coupables que ceux qui les profèrent.
Ça concerne tout le monde, la hausse d'impôts.
Tous les Français.
Tout dépend dans quelle
même
mesure,
qui
si
nous
vous
écoutent à travers
mais
la
pour
France.
Faire passer un déficit public.
Enfin, du point de vue intellectuel, c'est sûr. Je pense qu'effectivement, les impôts, là, les 30 milliards qui sont prévus, ne vont pas toucher toutes les classes moyennes. Nous, on fait un calcul là tous les ans et on voyait qu'à peu près le poids de la fiscalité, prélèvement obligatoire, compris tout, ça n'allait pas beaucoup bouger pour le salarié moyen. Par contre, il y a effectivement
juste
tout
un chiffre. Très rapidement, en un an, le déficit public de la France, il sera. Donc vous avez vu que les augmentations d'impôts ont été importantes, chacun a vu. Déficit public de la France, entre 2012 et 2013, sera passé grosso modo de 4,8% du PIB à 4,5% du PIB. Quand même pas, c'est un gros effort pour pas grand-chose. Aux États-Unis, Dans la même période, le déficit sera passé de 7% du PIB à 4% du PIB. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez, eh bien, vous avez de l'activité économique, vous avez de la croissance. Alors, on peut en discuter longuement. Il y a peut-être, on n'est pas obligé, il y a peut-être des mesures de politique publique qui sont pas à copier. Oui, oui, mais enfin, non, mais attendez, oui, d'accord, mais 3 points en un an, alors que nous, on est au forceps, oui, quitte à tuer l'économie.
Je pense que l'endettement, je pense que la question, moi, la question de l'endettement, elle m'occupe beaucoup, parce que je pense que un des problèmes des 25 dernières années, c'est le problème des bulles économiques qui se sont gonflées puis dégonflées. Et en fait, ces bulles économiques, c'est pas de la croissance durable, c'est pas de la croissance sur laquelle on peut compter pour nos générations futures. Et le problème aujourd'hui que je vois en particulier aux États-Unis, et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au regonflement d'une bulle qui va nous laisser complètement amorphe au bout du compte. Donc la croissance, si elle est gonflée par la dette, eh bien, elle n'est pas durable. C'est ça le problème. C'est que, et là, on touche au problème des questions monétaires qui sont très vastes. Et je ne sais pas si on peut les évoquer ici, mais je pense que la question de l'endettement, c'est une question cruciale et qu'elle peut obérer la croissance à long terme.
Bertrand Macabéo. Je suis partiellement d'accord avec vous, mais tout à fait d'accord avec Nicolas Bouzou. Ce que je veux dire, des choses simples. Qui crée de la richesse en France? Ce sont les entreprises. D'accord? Donc, les entreprises, il faut alléger les charges fiscales et sociales qu'elles ont à payer. C'est-à-dire qu'en France, un salaire de 100 coûte 150 à l'entreprise et le salarié à 70 à peu près, en moyenne. Donc un rapport de 1 à 2 entre les coûts.
Mais on nous dit si on enlève cet argent-là, on va pas pouvoir financer prestations sociales et retraites.
Il faut donner du souffle aux entreprises. C'est-à-dire ne pas souffler le froid et le chaud, comme je disais. C'est-à-dire un coup, je te donne 75%, je te paie 75%. Les entrepreneurs, ils n'ont qu'une envie, c'est de développer leur entreprise et qu'on leur foute la paix.
Excusez-moi, ça, le message est clair.
Donc, pour leur foutre la paix, il faut arrêter de souffler le froid et le chaud en disant, voilà, il y a encore des risques d'imposition
sur les plus-values,
sur les sens. Vous avez l'impression
que les entreprises sont un peu prises comme des vaches à lait?
Mais complètement. Mais le problème, c'est que le fromage, puisque vous parlez de vaches à lait, le fromage est en train de se restreindre.
Mais si ce n'était plus les entreprises, les vaches à lait, où prendrions-nous l'argent pour assurer les prestations sociales, chômage, etc.
En inversant le paradigme. En permettant,
enfin, je sais pas, je me pose permettant que se posent les auditeurs
quand
je les
rencontre.
En inversant le paradigme, en permettant aux entreprises de se libérer de certains poids, et elles vont repartir vers la croissance.
Vous
dites qu'on va décharger les entreprises et qu'il faut espérer sur la croissance.
À chaque fois, c'est pareil. Excusez-moi, mais l'une des dernières mesures du gouvernement Sarkozy a consisté en une réforme fiscale qu'on a oubliée. On fait comme si elle n'avait pas existé. La réforme de la taxe professionnelle, la fiscalité locale des entreprises. Ouais. 10 milliards la première année et depuis, en gros, 7 milliards chaque année. Rendu aux entreprises, je prends les termes qui étaient... Je prends les termes qui étaient ceux du gouvernement de l'époque dans les documents budgétaires diffusés à tout le monde.
Ça n'a pas été la réalité des choses. C'est
7
faux.
Milliards. Quoi qu'il en soit, l'impact budgétaire, on le voit.
Non, c'est faux.
Quel bilan a été tiré de cette réforme? Lorsque Louis Gallois rend un rapport sur la compétitivité, c'était l'objectif, je vous rappelle, en 2009, lorsque ça a été présenté par Nicolas Sarkozy, la réforme de la fiscalité locale des entreprises, c'était l'objectif de cette réforme, améliorer la compétitivité fiscale des entreprises. Lorsque Louis Gallois rend un rapport dans lequel il faut de nouveau réduire des prélèvements obligatoires, aucun bilan de la mesure. Quand va-t-il y avoir un bilan de ce type de mesure? Quand? C'est-à-dire qu'en gros, l'impact fiscal, on le voit quand même dans la loi de finances. Vous pouvez aller voir, c'est public. Il est évident. C'est-à-dire qu'il y a eu un report de charges fiscales, effectivement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé depuis 90, grosso modo. On a reporté la charge fiscale, on a fait de la dette à la place de l'impôt. Et ça contribue à quoi? Ça contribue à nous enfoncer dans un cycle récessif. Effectivement, sans croissance, on n'arrivera pas à en sortir.
Nicolas Bouzou, Cécile Philippe.
Je ne vais pas entrer dans le détail de la réforme de la taxe professionnelle qui, à mon avis, intéresse peu de gens, mais juste pour dire qu'en réalité, on ne l'a pas du tout supprimée, on l'a transformée. Voilà. Mais on ne l'a pas, la charge fiscale est très exactement la même. Elle est un peu plus forte.
Elle est plus faible. Regardez les documents budgétaires. Effectivement, la charge fiscale a bel et bien diminué, puisqu'effectivement, la taxe professionnelle a été remplacée par des dotations.
Voilà, c'est ça. Sortons. Enfin, moi, je veux bien qu'on débatte pendant 4 heures de la fiscalité, mais comme la fiscalité, de toute façon, va pas bouger ces prochaines années, de toute façon, c'est pas le. Mais puis, on parle de croissance. Moi, je peux faire une proposition, puisqu'on a dit de faire des propositions.
Oui,
faire une proposition
parce que là, on va y consacrer l'autre partie de l'émission.
Non, mais je peux commencer à faire une proposition positive qui ne coûte rien. Ben, supprimons, par exemple, vous avez un dispositif institutionnel en France qui est, à mon avis, l'une des choses les plus stupides que l'humain a inventées ces 10 000 dernières années, qui s'appelle le principe de précaution.
Ah oui.
Alors... Oui. Qui fait fuir les compétences, et alors là, pas seulement dans le secteur privé, mais les compétences du secteur public, des chercheurs qui vont ailleurs. Moi, je travaille dans le domaine de l'économie de la santé. La génétique, c'était nous les meilleurs, elle se fait en Chine. Vous voyez,
c'est quoi le principe de précaution?
Alors,
le
principe
pour
de précaution, c'est un dispositif institutionnel qui stipule que si qu'une innovation ne doit pas être généralisée, si on n'est pas certain qu'elle ne générera pas de risque, si vous voulez.
Donc, fonction très administrative de la France, avec beaucoup de cadres, de cadrage.
Pas forcément. Non, mais on aurait pu. Certains pays ont adopté un principe de précaution de façon plus souple, mais c'est vrai qu'on a mis en place certains zèles, si vous voulez, en France, à l'appliquer. Ce qui fait que, et vos auditeurs peuvent faire l'exercice, parce que c'est très amusant à faire, vous allez lire la Constitution française, vous posez deux questions. Est-ce que l'électricité passe le principe de précaution? La réponse est bien évidemment non.
Est-ce que le Doliprane
passe? Est-ce que le feu passe le principe de précaution? La réponse est bien évidemment non. Le feu et l'électricité étant bien plus dangereux que la
génétique. Et trop de carcans administratifs.
Oui, voilà,
voilà,
exactement. Ça ne coûte rien et on retombe effectivement sur ce poids réglementaire et le principe de précaution en a rajouté une couche et c'est vrai que la France est le seul pays à l'avoir inscrit dans sa constitution et je crois que vous disiez quelque chose de très important, c'est que c'est un principe de gestion publique du risque qui, et c'est pour ça que je disais au début de l'émission, on s'est éloigné d'un principe de responsabilité individuelle et ça c'est la catastrophe parce que de toute façon au niveau public vous ne pouvez pas gérer l'ensemble des risques, les risques doivent être gérés par les individus et des individus responsabilisés qui ne peuvent pas reporter sur les autres le coût de leurs innovations. Et aujourd'hui, avec un principe de précaution qui, en plus, est instrumentalisé par toutes sortes de groupes, eh bien, on se retrouve avec des décisions qui sont les unes après les autres interdites, des innovations qui ne peuvent plus passer, etc., etc. Et alors, quand on accumule ça à toutes les autres rigidités qui existent dans le système français, là, effectivement, vous avez la croissance qui s'arrête.
Alors, il nous reste quand même, pour le moins, en tout cas, sur cette partie du débat, deux questions. C'est que si on décharge les entreprises, l'argent qu'on décharge, où on le trouve pour assumer le financement du chômage et de la sécurité sociale, pour faire simple. Mm-hmm. Puis il y a une autre question qu'on a évincée, c'est que si on veut de la solidarité et qu'on dit il y a trop de fiscalité sur les hauts revenus, les entreprises, etc., comment le faire vivre avec une attente socialiste du traitement politique et économique dans notre pays? Et vous sentez bien ce qu'il y a à l'envers ou à l'endroit de ces deux questions, Bertrand Macabeo.
L'idée n'est pas de réduire les impôts par rapport à ce qui existait il y a 2 ans, etc. L'idée est de stopper complètement les hausses d'impôts. Voilà, je crois qu'il y en a assez, tout le monde a suffisamment donné, et on reparlera tout à l'heure si vous voulez.
Est-ce que sur les deux questions que je viens de poser en trois mots, vous avez l'un ou l'autre quelques éléments de réponse?
Moi, je veux bien réagir à la question de la solidarité, qui me paraît extrêmement importante, parce qu'en effet, on observe un éclatement des inégalités, c'est tout à fait vrai, moi je l'ai étudié. La bonne réponse à ça, à mon avis, aujourd'hui, est moins la redistribution fiscale qu'un effort en matière de formation. La meilleure façon de resserrer le lien social, c'est de réinvestir le champ de la formation et de la formation tout au long de la vie, de la maternelle jusqu'à la formation continue, qui, à mon avis, est l'un des plus
Alors,
puissants.
Alors, créer des postes d'enseignants, hausse des déficits.
Eh ben, vous savez quoi, entre la diminution de l'âge égal de départ en retraite et les 60 000 postes d'enseignants, je préfère les 60 000 postes d'enseignants, hein, quitte à choisir entre deux dépenses.
Jean-Marie Monnier, deux mots.
Oui, moi, je pense qu'effectivement. Alors, il y a un problème de redistribution et il y a un problème de distribution. Il y a un problème de redistribution au sens où, effectivement, la fiscalité, elle est, je dirais, globalement régressive. C'est-à-dire qu'il y a une insuffisance de taxation des hauts revenus. On est à peu près d'accord. Ça, c'est à peu près bien documenté.
On dit
si
la France est un pays hyper fiscalisé. On paye trop d'impôts, beaucoup plus qu'ailleurs.
Il se trouve quand même qu'on a plusieurs travaux qui confirment ce genre de choses. On sait qu'aujourd'hui, grosso modo, l'effort...
Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur. Quand on voit la fuite des capitaux de France...
Ça n'est pas une démonstration. immigration. Mais dire si. Que les gens fuient l'impôt,
non, la fuite des capitaux.
Parce que depuis le début,
mais monsieur,
on est venu nous parler ici beaucoup d'exécutifs.
C'est exactement ce que je vous disais.
Quand, ça, c'est pas une démonstration.
Quand il y aura moins de riches, il y aura plus de pauvres.
Oui,
et
bien
ce sont les pauvres qui
bien sûr.
Plus.
Et au 19e siècle, il y avait beaucoup de riches non, et les pauvres étaient très pauvres. Tout le monde peut le constater.
C'est mathématique.
C'est pas mathématique.
Mais si,
ça, c'est le genre d'évidence qu'on assène, qui est un discours d'autorité qui n'a.
On ne tranchera pas ces questions-là. Et on laissera nos auditeurs se faire une idée précise et les trancher.
Et un problème de distribution, effectivement, c'est-à-dire qu'on a une forte augmentation de l'éventail des revenus, notamment des très hauts salaires, des très hautes rémunérations. Et là, il y a un problème de régulation, manifestement, de la distribution du revenu. Je ne sais pas exactement comment il faut faire, mais je pense qu'il
faut... On va essayer de vous interroger
pas,
sur comment il faut faire.
Peut-être pas par des obligations légales qui seront de toute façon contournées, mais il faut réintroduire de la justice dans la distribution des revenus, parce qu'on ne le dit jamais assez, distribution des revenus, c'est la première étape de la redistribution.
Le magazine de l'économie, Didier Meyrand.
Et cette semaine, nous nous intéressons aux grands mots de l'économie française. Chômage, fiscalité, croissance, compétitivité. La deuxième partie, après les points de suspension, c'est quelle solution? Alors on va essayer de vous demander de réagir et de nous tracer des pistes de solutions. Ce qui intéresse le plus nos auditeurs, et quand je vais à leur rencontre, je serai bientôt en Corse, reçu par RCF Corsica ou récemment à RCF Chambéry. À chaque fois, je rencontre des auditeurs et ils me parlent aussi du chômage de leurs proches, du chômage de leurs enfants, oui. De l'inquiétude qu'ils ont pour leurs propres emplois. Alors, est-ce que vous entrevoyez, vous qui êtes des experts, on attend des paroles, des pistes de solutions sur ces questions de l'emploi? Qui commence? Cécile, bah, Philippe,
écoutez, moi,
et puis
je veux bien Macabéo, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé mon institut. C'était justement parce que le chômage en France était très élevé, et particulièrement pour les jeunes, et que c'était pas un phénomène nouveau, c'était un phénomène ancien. C'est-à-dire que c'est, je crois, depuis 1978, on n'a pas eu en France un taux de chômage inférieur à 4,5%, et ça crée une anxiété terrible. Mais alors, les réformes, alors là, vous en avez, parce que il faut quand même.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il n'y a pas deux, trois réformes clés, claires, qu'il faudrait mettre en place?
Déjà, sachez que tout le marché du travail est surréglementé. Donc, on peut prendre tous les aspects. Donc, parlons de la durée légale du travail, du SMIC, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a évidemment les procédures de licenciement.
Accords récents sur la flexisécurité, c'était bien, c'est pas assez, il en faut plus.
Eh ben écoutez, là, j'attends de voir.
En fait, j'attends de voir.
J'ai l'impression qu'effectivement, il y a un début de
donc
bonne
vous dites
direction.
Il faut tout réformer, mais on ne sait pas bien quoi quand même.
Si on veut véritablement permettre aux personnes non qualifiées d'accéder à un premier emploi, eh ben le SMIC est un obstacle majeur. Et par conséquent, il faut commencer à s'intéresser à ce SMIC.
Vous êtes sans SMIC.
Mais au moins négocier au niveau des
comme
branches.
Comme en Allemagne.
Vous savez que ça
a créé une très forte précarité. Qu'il y a des femmes de ménage qui travailler en Allemagne à 5 euros de l'heure.
5 euros de l'heure, c'est vrai.
Non, mais est-ce que vous qui êtes une experte, vous le savez?
Oui, bien sûr, je sais que c'est le grand débat de savoir est-ce qu'il vaut mieux avoir un emploi partiel
en Allemagne
ou avoir pas d'emploi du tout.
Est beaucoup plus forte qu'elle ne l'est en France. Il y a moins de filets sociaux. Bertrand Macabeo.
Je pense que les entreprises ont bien sûr leur rôle à jouer. Nicolas Bouzou évoquait le problème de la formation. La formation des jeunes, quand on sait que 50% des jeunes sans formation sont au chômage, c'est un vrai problème. Mais ça, je dirais, il faut donc mettre en place des mesures de formation qui n'auront un impact.
C'est le système éducatif français qui est à refonder, renouveler, etc.
Tout à fait. Mais qui n'auront un impact que dans le futur.
Est-ce que l'entreprise, elle a une responsabilité pour former ces jeunes?
L'entreprise, oui.
Est-ce qu'elle joue suffisamment la carte de l'alternance et de l'apprentissage?
Par exemple, le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous avons créé un manifeste pour l'emploi des jeunes, dans lequel nous nous engageons à favoriser l'apprentissage, à favoriser les stages, à favoriser le CDI plutôt que le CDD, et à faire en sorte donc que les jeunes puissent rentrer dans le monde du travail.
Et il est toujours en ligne, ce manifeste.
Il est toujours en ligne.
www.lesedc.org. Nicolas Bouzou.
Bon, alors déjà, le problème du chômage, il a plein de causes. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit en face du chômage, moi j'ai telle solution, vous pouvez être sûr qu'il dit une ânerie. Parce qu'il y a
plein de choses.
Mais oui, parce que le marché du travail. Je dirais qu'en France, il dysfonctionne par tous les bouts, si vous voulez. Donc, je vais essayer d'être clair et concis. Alors, déjà, il y a un problème de croissance économique. Ça, c'est l'évidence.
C'est la base.
Si l'activité baisse, il est clair que les entreprises ne vont pas créer d'emplois. Donc, ça, ce sont des problèmes de politique économique, de compétitivité. Non, mais la croissance, elle va revenir. Enfin, je veux dire, on ne reste pas en récession. Donc, mais ça ne suffit pas.
Vous disiez tout à l'heure avec humour, quand?
Non, mais elle reviendra l'année prochaine.
Par l'opération du Saint-Esprit.
Non, hein, non, mais je veux dire.
En l'occurrence, aujourd'hui, je pense que la vraie question est là.
Attendez, avant de dire que j'ai tort, laissez-moi juste terminer mon argumentation pour être certain que vous avez tort. Non, non, mais pas du tout. Donc, premier volet, la croissance. Deuxième volet, bien évidemment, la formation. Formation professionnelle en France. Écoutez, le ministre du Travail fait un chèque de 35 milliards d'euros par an. Je suis désolé, il y a peut-être certains de nos auditeurs qui travaillent dans la formation professionnelle, mais enfin, on n'en a pas le retour sur investissement qu'on est en droit d'en attendre. Il est quand même pas normal que des ouvriers dans l'automobile n'aient pas été formés, ne se retrouvent pas à travailler dans la construction ferroviaire ou la construction navale.
Est-ce que nous ne sommes pas dans une démarche de formation majeure, trop académique? L'éducation nationale française, un million de salariés, la plus grosse entreprise publique du monde.
C'est pas que la formation, là aussi, elle dysfonctionne.
C'est bien ça, l'éducation nationale, un million de salariés, la plus grosse entreprise
publique. Oui, mais l'éducation nationale, elle dysfonctionne de la maternelle, si vous voulez, jusqu'à la formation continue. Et puis, troisième sujet, alors moins agréable, mais là aussi, je suis désolé de le dire, le contrat de travail, ou plus exactement, la judiciarisation du contrat de travail. Le droit du travail n'est pas rigide en France. Vous pouvez licencier, si un salarié ne vous convient pas, vous le licenciez. Voilà. Par contre, il va au prud'homme, et là, vous en avez potentiellement pour 3 ou 4 ans. Donc ça, c'est très difficile à gérer pour les entreprises, et du coup, ça freine leur comportement d'embauche. Alors, de ce point de vue-là, parce qu'il faut être juste, et vous voyez, il faut voir aussi la bouteille à moitié pleine, ce que fait le gouvernement, les négociations avec les partenaires sociaux vont très clairement dans le bon sens. Est-ce que c'est suffisant? Mais c'est jamais suffisant. Bon, mais est-ce que ça va dans le bon sens? Oui, ça va dans le bon sens.
Jean-Marie Monnier?
Oui. Vous voyez, j'aurais tendance à dire la croissance, c'est la toile de fond, si vous voulez. C'est la première nécessité. Avec ceci que j'ai tout de même peur qu'on s'engage actuellement dans une forme, vous voyez, de croissance à la japonaise, à la fin des années 90, début des années 2000, c'est-à-dire à une stagnation avec un taux de croissance, un tout petit quelque chose, et qu'on y reste pour quelque temps, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est vraiment, qu'on soit engagé dans une solution à la japonaise.
De mini-croissance.
Vraiment de, vous voyez, quelque chose qui ne permette pas finalement de résorber le chômage. N'oublions pas une chose que nous oublions souvent dans nos débats, c'est que la France est le pays d'Europe qui fait le plus d'enfants et qui en fait plus que le Japon n'en faisait, d'ailleurs à l'époque, et n'en fait aujourd'hui. Voilà, donc nous fournissons, si je puis dire, des chômeurs futurs si effectivement nous sommes engagés dans ce cycle à la japonaise qu'il me semble certains indicateurs nous montrent. Donc la croissance, c'est quand même la nécessité. La deuxième chose, vous avez raison, la formation professionnelle. Moi, j'ai entendu quand même pas mal de chefs d'entreprise se plaindre du fait qu'ils n'arrivaient pas à trouver des ouvriers avec une qualification, un soudeur, par exemple. J'ai rencontré l'autre jour quelqu'un qui me parlait de ça. Incapacité à trouver. Voilà.
On a identifié 15-20 secteurs avec pénurie de compétences.
On a un problème de formation professionnelle. J'ajouterais que faire comme ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire couper les crédits de l'université et accepter, comme ça se passe dans mon université, si vous voulez.
C'est un gouvernement socialiste qui fait ça dans les universités.
Oui, tout à fait. Accepter, si vous voulez, qu'on réduise le nombre de cours, le nombre de TD, qu'on surcharge tout.
Non, mais parce que c'est pas leur habitude.
Bien sûr que si. Ça, c'est absolument autre chose que l'investissement dans l'avenir et ce qu'on dit une formation de bonne qualité. Troisième chose qu'on oublie, c'est qu'il faut avoir une vraie... Le ministre du Développement Productif a des mérites. On aurait peut-être besoin quand même de quelque chose qui ressemble à une politique industrielle, pardonnez-moi, mais un petit peu, quoi, de façon à investir dans les secteurs d'avenir, ceux qui sont sur
comme les pôles de compétitivité, ça existe
au-delà,
quand même.
Au-delà.
Le crédit innovation, c'est-à-dire impôt recherche.
Vous voyez, on a abandonné toute ambition industrielle, semble-t-il. On se contente de courir après le... Vous voyez, dès qu'il y a un incendie, on court après. Mince,
on court à côté de l'Allemagne, au fait, ou...
Un petit peu, ça y ressemble, ouais.
On lui court après.
Ce pays a eu des grandes politiques industrielles. Il n'en a plus. C'est atterrant.
Exactement. C'est tout à fait ce que je disais en début.
Bertrand Macabéo.
L'entreprise, la France n'a plus de politique industrielle.
Même les pôles de compétitivité, le Made in France, la French Touch.
Ce sont des outils qui ont été mis en place. Je suis pas sûr qu'ils soient très
ça me semble pas suffisamment
actifs. J'en ai visité quelques-uns. Je suis pas sûr que ça soit très actif.
Le Made in France.
Vous y croyez pas beaucoup.
Ah, le Made in France, si. Pourquoi pas? Ou le Made in Europe, ou le... Ça, pourquoi pas? Mais il faut créer une
politique. Permettez moi, d'ajouter envie... une quatrième
oui,
chose.
J'aimerais bien aussi qu'on parle de, mais c'est quoi la croissance? Parce qu'on parle tous autour de cette table de la croissance, mais elle vient d'où cette croissance? Parce que, justement, la raison pour laquelle on lit croissance et baisse des dépenses publiques, c'est parce que, justement, il y a cette idée.
Oui, il faut aller
que
la chercher.
Trop de ressources privées sont prises pour financer l'État, la protection sociale,
ça
etc. Alors que, justement, la croissance, elle vient des échanges entre individus qui cherchent à satisfaire des besoins. Or, plus on s'éloigne de ça et plus on prélève des ressources, et moins il y en a à redistribuer. C'est aussi ça la vraie question qui se pose aujourd'hui.
Nicolas Bouzou, pour vous, est-ce que c'est la vraie question ?
La croissance ?
Oui.
Ah oui, complètement. Moi, je pense que... D'ailleurs, je trouve que la France et beaucoup de pays développés ont baissé les bras par rapport à la croissance. On est dans un monde de croissance, c'est extraordinaire, un monde plein de promesses. Ouais. La pauvreté
Alors, où
baisse
aller la
beaucoup.
Chercher,
vous allez la chercher dans l'innovation et dans les pays émergents. C'est aussi simple que ça intellectuellement. Après, quand on dirige une entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Mais aujourd'hui, il y a tout un tas d'innovations, tout un tas de secteurs sont en train
de
changer.
On voit que les grandes entreprises ou les PME françaises qui réussissent, elles réussissent dans les pays émergents.
Et bien évidemment, vous avez un déplacement de centre de gravité du monde. Je suis désolé d'enfoncer une porte ouverte que tout le monde connaît, mais aujourd'hui, la croissance, elle est dans les pays émergents. Je pense
même
que
si
c'est durable.
Même si la croissance chinoise s'amenuise.
Non, mais elle s'amenuise, en Chine, mais pas au Brésil. Et puis derrière la Chine, il y a le Cambodge, l'Indonésie, le Vietnam, etc. Donc, si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. Il y a un moment aussi, d'ailleurs, je ne comprends pas que les politiques ne tiennent pas ce langage. C'est quand même un monde extraordinaire, le monde dans lequel on vit. Ce n'est pas un monde de décroissance.
Absolument.
Bah, tiens,
c'est un monde d'hypercroissance dans lequel on est en train d'entrer.
Donc, il faut aller la chercher.
Oui, mais ces pays font exactement la démarche inverse des nôtres. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de s'ouvrir aux échanges entre individus. Ils ne sont pas en train d'essayer de construire un État surpuissant.
Alors, deux minutes, Jean-Marie Monnier.
On ne peut pas dire que la croissance, c'est la multiplication des échanges. Pardonnez-moi, sur les marchés financiers, les échanges sont de plus en plus nombreux. Et on ne peut pas dire que ça donne de la croissance.
C'est la bulle économique.
Ça donne des bulles. Donc, ce que vous nous décrivez, c'est un processus de bulles. C'est un processus de bulles. C'est la création de richesses. Créer de la valeur. C'est ça qui crée la croissance.
Tout à fait.
Oui,
créer de la valeur. L'échange, il vient après et on peut échanger un bien.
Créer de la valeur, c'est créer de l'innovation.
Créer de la valeur. Et deuxièmement, créer de la valeur, c'est aussi considérer que ce qu'on considère actuellement comme des charges, en fait, c'est aussi des facteurs de production. Pardonnez-moi,
c'est une ressource.
Au niveau de la santé, par exemple, ça n'est pas qu'une consommation de richesses, c'est aussi un lieu où se crée de la valeur.
Absolument.
Et ça, il faut investir là où nous avons justement un potentiel.
Bertrand Macabeo, et ensuite on s'interrompt quelques instants. Bertrand Macabeo.
Là, sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec vous, et le monde de la finance a encore à balayer devant lui. Ce que je crois, quand on dit la croissance est la réponse, attention, je dirais la croissance éthique et durable, parce qu'il y a un petit peu n'importe quoi qui est fait dans certains pays émergents, et ça, je pense qu'il faut vraiment le contrôler.
On le voit
au Bangladesh. Parce que ça, c'est l'avenir. On le voit au Bangladesh, on le voit en Chine. Et là, j'aurais une mesure. Pourquoi les États européens n'auraient pas des blacklists d'entreprises chinoise.
Il y a déjà des blacklists.
Oui,
de
mais alors là,
pays,
non, mais au niveau
fiscaux.
Oui, mais vous savez,
est-ce qu'il faut en rajouter?
Non, mais non.
Du droit européen, au droit européen, je vous taquine, mais
était trop épais. Là, vous êtes en train de rajouter des pages au code.
Non,
oui, c'est ça.
C'est pas sûr.
Et vous disiez tout à l'heure qu'il n'en fallait moins. Vous êtes en train de demander des textes au texte.
Non, ce que je veux dire simplement, c'est que
le journaliste veille à la cohérence.
Vous avez raison. Vous avez raison. Mais moi aussi, ce que je veux dire simplement, c'est que il faut certains pays. Eux ont une certaine politique de régulation de leurs importations. Et je pense qu'on pourrait peut-être aussi avoir au niveau européen une politique de ce type-là. Légère, mais on pourrait l'avoir.
L'économie solidaire, l'art de conjuguer, être et avoir.
Dernière partie du magazine de l'économie de cette semaine, les grands mots de l'économie française en question, chômage, fiscalité, croissance, compétitivité, et quelles solutions? Et on va... Bien sûr, sans être exhaustif, continuer ce chemin en passant par l'Europe. Alors, l'Europe, on voit bien qu'en ce moment, Angela Merkel et François Hollande semblent de nouveau faire couple uni. Ça semble être de meilleurs auspices. Qu'est-ce que vous en pensez, Cécile Philippe? Est-ce que ça va mieux? Et plus sérieusement, est-ce que ce couple franco-allemand doit rester le moteur de l'économie européenne et aller vers ce qui nous est annoncé, une gouvernance économique plus forte avec un gouvernement économique européen?
Écoutez, c'est une question difficile. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, le couple franco-allemand doit fonctionner et que le fait que la France ait obtenu un délai supplémentaire de 2 ans pour rentrer dans les clous du déficit public a raffermi les liens entre...
Est-ce qu'il nous faut un gouvernement économique européen ?
Est-ce qu'il nous faut un gouvernement économique européen ? Si on ne change aucune autre règle, oui. Mais c'est peut-être la question, est-ce qu'il ne faut pas changer d'autres règles ?
Nicolas Bouzou, nous faut-il un gouvernement économique européen ? Et si oui, sous quelle forme ?
Oui, mais on y va en réalité, de toute façon. Ouais.
Bah, on semble y aller, mais oui, ça quoi, discute
non,
quand même. Hein.
Mais ça discute parce qu'on est 27 et parce que là aussi, alors je ne veux pas verser dans un optimisme béat, mais on est dans les pays démocratiques et donc forcément ça discute et c'est long et c'est compliqué. Et c'est bien, mais en même temps, on avance de façon solide.
Et vous êtes
quel
conscient ?
Est l'enjeu ? Oui, je suis très confiant. Quel est l'enjeu au fond ? C'est très simple à comprendre. Quand vous êtes dans une zone monétaire, quand vous avez un pays qui est en situation de quasi-faillite, ce qui était le cas de la Grèce ou du Portugal,
ou de l'Irlande,
si vous ne voulez pas que tout le système financier de la zone s'effondre, il faut l'aider. Et l'aider, ça veut dire lui donner de l'argent, beaucoup d'argent, pas lui prêter. On prête pas de l'argent à quelqu'un qui est en train de qui a pas de quoi manger, si vous voulez, ça n'a pas de sens. Donc il faut lui donner de l'argent et en même temps il faut des contreparties. C'est très exactement, pour que les auditeurs comprennent bien, la façon dont fonctionne l'État français avec les collectivités locales. Quand une collectivité locale est en faillite, ce qui arrive, je dirais pas tous les jours, mais quasiment, les habitants ne s'en rendent même pas compte. Voilà. Et c'est ce qu'il faut arriver à faire avec l'Europe. Oui, je suis optimiste. Vous savez, il faut pas trop regarder les gouvernements. Il y a une ligne qui est tracée
par Bruxelles.
Et finalement, non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que vous savez, c'est l'économie.
Bien par Bruxelles
là aussi,
qu'elle est
tracée, non. Là encore, je vais faire peur à certains de vos auditeurs, mais moi, je suis marxiste de ce point de vue-là, c'est-à-dire que je considère que c'est l'économie qui dicte sa loi à la politique. C'est pas l'inverse. Donc, qu'ils fassent des sourires, qu'ils fassent pas de sourires, moi, ça m'intéresse pas. De toute façon, ils changent. On est dans des démocraties, donc Angela Merkel va sans doute être réélue, mais peut-être qu'elle ne sera pas réélue. François Hollande, pareil, dans 4 ans. Voilà. Ce que je sais, c'est que tout le monde a bien compris que tout le monde veut une zone euro qui continue de fonctionner. Ça, il y a un consensus là-dessus.
Avec ou sans les Anglais ?
Oh, bah, de toute façon, les Anglais dans la zone euro, ça, ce sera pas pour les 200 prochaines années. Donc, dans l'Union européenne, c'est un autre sujet, mais voilà. Ouais. Et donc, je crois que tout le monde a bien compris qu'il fallait aller vers une sorte de fédéralisme et on y va.
Bertrand Macabeo, est-ce que ça vous convient d'aller vers une sorte de fédéralisme économique avec un gouvernement économique européen commun ? Oui. Est-ce que ça penche selon vous vers une harmonisation fiscale européenne, une harmonisation des charges que vous revendiquiez tout à l'heure ?
Moi, ça me convient très bien et dans le sens de ce que disait Nicolas Bouzou, j'ai envie de dire l'État français doit revenir à ses fonctions régaliennes de sécurité, éducation, etc. et laisser le plus d'air et plus de liberté aux
comme
entreprises.
Comme des États-Unis d'Europe avec des gouverneurs. Là, le gouverneur de la France, François Hollande. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marie Monnier ?
Oui, mais on oublie quand même que...
C'est oui à la réponse un peu
non,
à la question ironique
non,
que j'ai faite.
Non, c'est non à votre... Mais j'y répondais avec un sourire, mais à la radio, le sourire passe mal.
C'est pour ça que je me disais qu'il fallait peut-être que je le fasse préciser.
Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que on oublie une chose, c'est que dans un État fédéral comme les États-Unis, il y a un système de financement au niveau fédéral. C'est-à-dire qu'on a un système de prélèvement et de redistribution au niveau fédéral et que cela préserve des systèmes de prélèvement et de redistribution au niveau des États fédérés. Aux États-Unis, par exemple, on a des fiscalités qui peuvent être extrêmement différentes au niveau des États fédérés. Mais on a besoin de ce système-là, c'est-à-dire de cette solidarité qui s'exerce au niveau fédéral. D'un circuit, comme on pourrait dire, d'un circuit de financement public au niveau de l'État fédéral européen qui s'ajoute d'une certaine manière ou qui se substitue. L'idée, par exemple, de faire un impôt sur les sociétés européens, c'est-à-dire de transférer l'impôt sur les sociétés au niveau européen, n'était pas une mauvaise idée.
Ouais, elle n'est pas complètement abandonnée.
Elle n'est pas enterrée,
hein.
Mais...
Elle a du fond dans l'aile, c'est ça ?
Ouais, mais tout peut se faire.
Moi, je vais vous dire ce que je pense. L'harmonisation fiscale, on peut en parler, hein, c'est un sujet sympathique, ça ne se fera jamais.
Mais c'est pas de l'harmonisation, ça. C'est pas exactement la même chose.
Attention, le truc qu'on n'a pas dit, c'est que, effectivement, le fédéralisme, on y va. Mais attention, parce que la plus grande machine bureaucratique et réglementaire aujourd'hui, c'est aussi l'Union européenne, hein. On parlait du principe de précaution tout à l'heure. Les premiers à avoir mis en place le principe de précaution, à dire ce qu'est le chocolat, le petit pois, les réglementations, mais tatillonnent sur la taille, ce sont les institutions européennes.
Alors, attention.
choses administratives. Il y a des dérives terribles de ce côté-là.
Et il faudrait occuper autre chose les fonctionnaires européens, c'est ça que vous nous dites.
Pardon?
Il faudrait occuper à autre chose les fonctionnaires européens.
Oui, ça serait bien, oui, effectivement.
Et les immeubles des institutions européennes qui sont si peu optimisés. Là aussi, il y a des tas de charges qu'on pourrait économiser.
Je peux faire une dernière proposition que j'avais faite avec un de mes amis économistes qui s'appelle Bernard Maris. On avait fait un article qui proposait de déménager l'Élysée en banlieue, ce qui serait déjà l'Élysée qui est un bâtiment extrêmement mal isolé, qui coûte extrêmement cher, et on pensait plutôt à Sevran ou à Saint-Denis pour qu'il soit quand même au milieu des rois de France, pour pas que le président soit complètement dépaysé, et ce qui enverrait un signal à la Scandinave absolument merveilleux.
Absolument.
Voilà, et on peut certainement faire des choses rigolotes aussi entre Bruxelles et Strasbourg,
oui,
pour générer
ça serait pas mal,
moins de coûts, et puis lorsque je vais enregistrer à Bruxelles ou à Strasbourg, j'espère que les institutions européennes me réinviteront, mais je suis frappé quand même des moyens colossaux qui nous sont offerts pour enregistrer. En tout cas, merci beaucoup à vous quatre de votre venue ici, de vos explications. Vous reviendrez si vous le souhaitez. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver chacun de mes invités dans leurs propos, dans leurs plumes. On entend l'arbre tomber, mais pas la forêt qui pousse, chez La Tesse, et c'est Nicolas Bouzou qui a pris la plume. Parlons d'être à la Documentation française, Jean-Marie Monnier. Et puis, vous retrouvez Bertrand Maccabeo dans la revue Dirigeants chrétiens des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et Cécile Philippe, C'est trop tard pour la Terre, aux éditions La Tesse. Merci à tous les quatre. À bientôt.
Merci.
À vous toutes et à vous tous. À la semaine prochaine. Au revoir.
Merci.
Au revoir.